Bonjour à toutes et à tous. Je rajeunis pas, donc il faut que je change de lunettes. Un homme se cache. Il sait qu'il est cherché, et ça fait des années qu'il est cherché. Il est parti de chez lui depuis déjà bien, bien longtemps. De son enfance, il n'a que des souvenirs de cette période d'insouciance, de cette période où il aimait bien aller dans les pâturages, s'imprégner de l'odeur fraîche de l'herbe, où il aimait bien se laisser bercer par les notes de musique. Lui, il n'avait absolument rien demandé, mais on lui a donné ce qu'un autre convoitait. Alors, depuis ce jour-là, il fuit. Il est aux aguets, toujours aux aguets, et il fuit avec sa famille, avec ses proches et avec tous ceux qui l'ont suivi. Et dans sa fuite, il se souvient et il s'accroche de son souvenir. Un deuxième homme, lui, est seul. Il est malade, il est contagieux. Lui, c'était un héros de guerre, et ce héros de guerre n'est plus que l'ombre de lui-même. Lui, il a combattu contre de nombreux ennemis. Et par son courage, il a même sauvé sa nation. Et aujourd'hui, c'est plus contre un ennemi physique, visible, qu'il se bat. Mais c'est contre un ennemi qui est infiniment bien plus petit. Et pourtant, qui est ô combien bien plus menaçant. Aujourd'hui, il est gravement malade. Il se bat contre la lèpre. Et il est prêt à écouter celui qui pourrait le guérir. Un dernier homme, lui, est croupi au fond de sa prison. Il est seul et cette solitude le pèse. Lui, il n'a rien fait. Ou plutôt, si, il a osé. Il a osé dire la vérité. Il est resté ferme dans cette vérité et il n'a jamais changé son discours. Toujours le même discours, sans aucune autre version. Mais il n'a pas été entendu, ou il a été peu entendu. Il n'a pas été cru. Une terrible erreur judiciaire, et aujourd'hui, il est au fond de sa prison. Alors seul, face à lui-même, il repasse devant lui toutes les années de sa vie. Ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal, ses souffrances, mais aussi toutes ses joies. Et dans cette solitude-là, il écrit. Trois hommes. Trois hommes, trois destins et trois manières complètement différentes d'appréhender une situation de vie qui est difficile. Trois exemples qui, dans le monde d'aujourd'hui, ne peuvent que nous fortifier et nous encourager, quoi qu'il advienne, pour que nous puissions suivre le Seigneur jusqu'au bout. Oui, suivre le Seigneur jusqu'au bout. Alors peut-être avez-vous reconnu ces trois hommes ? Et je vais un petit peu plus approfondir leur parcours. Si je devais donner un surnom à David, ce premier homme, je lui donnerais le surnom de David le fugitif, l'homme qui se souvient. En parcourant toute la vie de David, on peut voir que c'était un jeune berger nonchalant qui était au milieu de ses brebis et qui était protégé de la guerre par son père. Mais je vois aussi un adolescent qui a défié le grand Goliath et qui a vaincu Goliath. Je vois un homme qui a épousé la fille du roi Saül, l'ami qui est resté fidèle jusqu'au bout à Jonathan, et le soldat qui, petit à petit, a une renommée qui est devenue grandissante. Si on résume un peu, on a l'impression que c'est une vie calme, tranquille, agréable, mais voilà, jusqu'au jour où absolument tout va basculer. Le roi Saül est un roi jaloux. Et le roi Saül craint pour sa place, pour son trône. Alors il veut éliminer David, et c'est à partir de ce jour-là que la fuite commence. David, sa famille, ses compagnons vivent pendant des années de l'errance, jusqu'à paradoxalement rejoindre un camp, mais c'est assez sournois, le camp des adversaires, auprès du roi Achish. Et savez-vous le roi de qui était ce personnage ? Le roi des Philistins. Les Philistins, ceux-là même où David avait combattu le géant. Et auprès des Philistins, où il est en exil, où il immigre, il obtient les faveurs du roi, qui lui permet de s'installer, lui et toute sa famille, à Siclag. David se met au service de ce nouveau roi et il combat fidèlement pour ce roi avec toute sa troupe, avec tous les soldats qui se sont joints à lui. David est exilé, il est immigré dans un pays avec une culture différente, avec des mœurs différentes. Et malgré cela, il continue à préserver un lien tout particulier avec son Seigneur. Une nouvelle page semble s'être tournée, lui reste fidèle à son Dieu. La vie semble à nouveau avoir repris gentiment son cours, jusqu'au jour où à nouveau un nouvel événement se produit. Les Philistins rentrent en guerre contre Israël. Israël, le peuple de David. Mais David, en dépit de ses origines, a décidé de rester fidèle au roi Achish. Lui veut se battre contre son propre peuple. Mais voilà, tous les soldats des Philistins, et en particulier les dirigeants de ces Philistins, les commandants de l'armée, eux craignent qu'à un moment donné, David ne virevolte et change son point de vue et sa manière de fonctionner. Alors le roi congédie David. Il lui dit « Ok, tu retournes auprès des tiens, auprès de ta famille à Siclag. » Et cet épisode, j'aimerais juste qu'on le parcourt un petit moment. Il se trouve dans 1 Samuel 30 et je vous propose de le lire, il vous sera projeté. Le premier verset. Le surlendemain, David et ses compagnons d'armes arrivèrent à Siclag. Or, les Amalécites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Siclag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonnier les femmes et les autres habitants, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et ils avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. David, qui va pouvoir enfin rejoindre les siens, se retrouve devant une désolation. Et le verset 5, si on saute le 4, nous donne une précision supplémentaire concernant David, puisqu'il nous dit « On avait même emmené les deux femmes de David, Ahinoam de Jisréel, et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel. » David est reparti vers les siens, mais tout est détruit. Il n'y a plus personne. David, lui, le fugitif, qui avait immigré, qui avait retrouvé un certain équilibre de vie, se retrouve à nouveau devant une situation extrêmement difficile. Il est face à une vision d'horreur. Tout ce qu'il venait de reconstruire s'effondre en l'espace à nouveau d'un seul moment. Une nouvelle épreuve de vie, alors que la vie semblait enfin avoir retrouvé un certain équilibre, alors qu'il semblait avoir enfin retrouvé une certaine sérénité. Et au verset 4, je reviens un petit peu en arrière sur le verset 4, voilà ce qu'on peut lire. « Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et ils pleurèrent jusqu'à en être épuisés. » Ils pleurèrent jusqu'à en être épuisés. On est face à un grand désespoir. Un désespoir qui envahit tout le monde. Si je me retrouvais devant une situation similaire, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que de s'effondrer ? Une immense tristesse. Mais ce qui est surprenant, c'est un peu dans le cours des choses et notre manière de fonctionner, c'est qu'une fois que l'émotion a été déversée, que cette tristesse est partie, et que le peuple se retrouve confronté et face à cette réalité, à ses pertes, eh bien, il y a la colère qui vient. Et la colère, elle fait face à l'injustice, à l'incompréhension. Et lorsqu'on est face à l'injustice, à l'incompréhension, eh bien, on recherche un responsable. Et c'est ce qu'on lit au verset 6 de ce même chapitre. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. David est en train de devenir le bouc émissaire. Est-ce que finalement, pensent tous ses compagnons, c'est pas de sa faute tout ce qui nous arrive? Est-ce que finalement, c'est pas à cause de lui qu'on se retrouve dans une telle situation? Nous, qui lui sommes restés fidèles à ce David, regardez où on en est aujourd'hui. Et ses compagnons parlent de le tuer à coups de pierre. Alors David, après la fuite, après l'errance, après l'immigration, après une certaine stabilité, après la perte des siens, se retrouve confronté à nouveau à une autre situation, celle de l'angoisse et de la crainte pour sa vie. Et David angoisse. L'angoisse, ce mot de tous les siècles, et ce mot qui est particulièrement, ce mal qui est particulièrement présent aujourd'hui. Qui est-ce qui ne connaît pas l'angoisse? C'est un des sentiments qui est le plus perçu aujourd'hui dans notre société. C'est un sentiment peut-être d'un mal-être profond qui est face à un danger qui peut être réel, mais aussi parfois face à un danger que l'on croit percevoir ou que l'on perçoit comme tel. C'est vraiment aujourd'hui un des maux le plus prépondérant de notre société. Et David aussi angoisse, c'est un humain, il a peur et il angoisse. Et dans ce moment d'angoisse, eh bien David va faire ce qu'il a toujours fait. Il va se tourner auprès de celui en qui il a mis toute sa confiance. Et c'est ce que nous dit la fin du verset 6, lorsque l'on dit que grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. David, dans une situation désespérée, a choisi d'espérer. Il se souvient de toutes ses intimités avec son Dieu, les louanges avec son Seigneur. Il se souvient des moments difficiles, des moments de détresse où il a invoqué l'Éternel, où il a crié à son Dieu. Il se souvient des moments où Dieu a répondu à sa voix. Il se souvient des moments où Dieu l'a arraché du danger, où il l'a soutenu, où il l'a supporté. Il se souvient et il espère. Mais il espère pas de cette sorte d'espérance où on espère que ça va arriver un jour et que ça n'arrivera jamais. Non, il espère dans cette certitude, dans cette conviction que le Seigneur réalisera la promesse qu'il a faite. Et ça, on peut le voir dans le psaume 18 que David a écrit et que je souhaiterais lire avec vous. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvée. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, il a écouté mon cri. Alors, du haut des cieux, il a étendu la main et il m'a saisi. Il m'a arraché au danger que me submergeait. David, cet homme qui se souvient, après l'exil, la perte, l'effondrement et l'angoisse, David s'est relevé. Il s'est relevé parce que dans son désespoir, il a espéré dans son Seigneur. Deuxième personnage, si je devais donner un surnom à Naaman, je lui donnerais celui de Naaman, le pestiféré sceptique, mais qui écoute. Naaman, c'est un homme qui est respecté, qui est puissant. Il a les faveurs de son roi, et la Bible nous dit que c'est un homme qui est vaillant, qui est fort. Mais voilà, il y a un mais. Aujourd'hui, cet homme fort est devenu faible, cet homme fort est lépreux. Il a tout, il a la renommée, il a une certaine puissance, mais au fin fond de lui, il n'a plus rien. Il n'a plus rien parce qu'avec la lèpre, il est probablement isolé. Il a un corps qui se déforme, qui se décompose, et il perd toute la prestance qu'il avait jusque-là. Lui qui jouissait de l'admiration de toute une nation va vite devenir l'homme pestiféré, celui qu'on ne veut pas approcher, celui que l'on craint. Et sa glorieuse notoriété va laisser la place à du dégoût. La femme de Naaman bénéficie des services d'une jeune servante juive, cette jeune fille qui avait été faite prisonnière à l'époque de la guerre par les Syriens, lorsqu'ils avaient combattu contre Israël. Et cette jeune femme semble entretenir des relations très affectueuses avec sa maîtresse de maison, au point de s'inquiéter de la situation et des répercussions et de l'évolution de la maladie sur son maître. Alors cette jeune fille, malgré son statut de servante, va oser interpeller sa maîtresse. Et c'est ce qu'on peut lire dans la Bible lorsqu'elle dit « Si seulement mon maître se présentait au prophète qui est en Samarie, celui-ci le guérirait de la lèpre. » Alors sa maîtresse en parle à son mari et Naaman va immédiatement s'adresser à son roi pour pouvoir se rendre en Samarie. Le roi lui répond « Va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » C'est surprenant. Je ne sais pas ce qui a motivé finalement Naaman. Est-ce que c'est ce qu'il a entendu dire de la part du prophète ou des différents prophètes d'Israël? Ou est-ce que c'est finalement l'attitude de quelqu'un qui est désespéré et qui est prêt à tout pour essayer de guérir? Quoi qu'il en soit, surprenant que cela soit, il a décidé d'écouter la voix de sa servante. Alors je ne vais pas m'attarder ni sur la rencontre de Naaman avec le roi d'Israël, ni même sur sa non-rencontre avec Élisée, puisque tous ces textes, vous pouvez les lire dans le livre des deux rois au chapitre 5. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est la démarche qu'a eue Naaman, la démarche d'écoute, de l'écoute à l'écoute active. Naaman, si on reprend, a écouté les paroles d'une servante, ce qui, comme je l'ai dit, est déjà quelque chose d'incroyable. Ensuite, il s'est déplacé vers un pays lointain, un pays avec lequel il a lui aussi souvent été en guerre, ce qui paraît aussi très improbable. Il est parti, pas les mains vides, mais avec une grande fortune. Une fortune à offrir au roi qui allait l'accueillir. Et pour guérir, il a été prêt à écouter une servante, à aller dans un peuple étranger et un peuple ennemi, et à ramener une grande fortune à ce roi. Pourtant, ce qui est surprenant dans cette histoire, c'est qu'après avoir fait toutes ces démarches, eh bien Naaman est prêt à renoncer à une possible guérison parce que le prophète n'a pas daigné se déplacer, mais il lui a parlé au travers d'un serviteur et d'un messager. Alors j'ai envie de dire tout ça pour ça. Mais voilà, avoir l'aval du roi de Syrie pour se rendre en Samarie, c'est quelque chose qui a renforcé l'ego et qui a donné un statut et une importance à Naaman. Être reçu par le roi même de Samarie, alors que, je vous le rappelle, il était lépreux, donc personne pestiférée, paria, que personne ne voulait rencontrer, ça renforçait encore plus le statut dans lequel il se trouvait. Mais ne pas être accueilli par le prophète en personne et recevoir son messager, de son messager, une recommandation qui, vous l'avouerez, est un peu inepte, a probablement dû toucher la corde sensible de Naaman, c'est-à-dire son orgueil. Comment est-ce que lui, un homme à la notoriété qui était avéré, qui a été recommandé par son propre roi, qui est venu les mains pleines de richesses, a-t-il pu recevoir aussi peu de considération par le prophète? Mais voyez-vous, dans ce désespoir de Naaman, Naaman a dû aller au-delà de la simple écoute. Il a dû apprendre à se décentrer de lui-même, de ses certitudes, et il a dû apprendre à porter son regard sur l'autre. Dans son désespoir, Naaman a d'abord écouté la voix de la servante. Puis il a entendu les mots du prophète. Mais il a fait preuve d'une écoute active uniquement au moment où il a cheminé et où il a été prêt à lâcher prise, à écouter les paroles de ses propres serviteurs et à partir vers une écoute active. C'est à ce moment-là qu'il a su se dépouiller de son orgueil, qu'il a accepté humblement, finalement, de recevoir cette parole qui lui a été adressée. Cette parole, aussi absurde pouvait-elle être? En fait, Naaman a mis son écoute en action et il a expérimenté la confiance malgré l'aberration de la situation et la situation critique qu'il vivait. Naaman a lâché prise et il a su s'abandonner entièrement. Naaman, l'homme qui écoute, après la maladie, après l'isolement, après la déchéance, Naaman a pu se relever, Naaman a su se relever, parce que dans son désespoir, il a mis l'écoute en action et il a osé lâcher prise. Troisième homme, peut-être l'avez-vous aussi reconnu, il s'agit de Paul. Si je devais donner un surnom à Paul, je dirais Paul le prisonnier qui partage. Paul est dans cet épisode que je vous ai décrit à la fin de sa vie. Il est à Rome, il est dans une prison. Et si je me réfère un petit peu à ce que l'on peut décrire des prisons de l'époque et des anciennes géoles, je peux imaginer que ce n'était pas les prisons d'aujourd'hui et que l'endroit devait être pierreux, froid, humide, sombre, avec très très peu de lumière. Paul, dans sa vie, a traversé énormément d'épreuves, vous le savez. Il a eu, dans son ministère, il a été menacé, il a subi des persécutions, il a eu des naufrages, il a eu d'autres emprisonnements. Mais à ce moment-là du récit, bien, Paul n'est plus à la fleur de l'âge. Et on pourrait se dire qu'après avoir tellement travaillé, après avoir tellement œuvré pour son Seigneur, il pourrait jouir enfin d'une retraite paisible et bien méritée. Mais voilà, Paul se retrouve enfermé. Il se retrouve enfermé, il se retrouve surtout seul, abandonné des siens. Pour Paul, qui toute sa vie a été entouré par les foules, par ses amis, par les personnes qui ont cheminé avec lui, ça a dû être une drôle de perspective, se retrouver seul. La solitude, comme l'angoisse, fait aussi partie de ces maux de notre siècle. Et j'ai regardé un petit peu les études qui avaient été menées la dernière en 2017. Et cette étude en Suisse montre que 38% de la population qui est interrogée se sent seule. Se sentir seul ne veut pas forcément dire qu'il n'y a personne à côté de soi. Mais se sentir seul, c'est ce sentiment profond qui grandit en nous. Et ce qui est paradoxal dans notre société, c'est que ce sentiment de solitude, il grandit proportionnellement à toute l'expansion que l'on peut voir aujourd'hui des réseaux sociaux. Et plus les gens se lient virtuellement, et plus ils se sentent seuls. Et la solitude, pour ceux qui la vivent, ça crée un certain désespoir. Dans cette solitude, Paul, lui, a choisi d'écrire. Alors, il n'a pas choisi d'écrire pour s'apitoyer sur son sort, pas du tout. Mais il a choisi d'écrire pour témoigner. Il a choisi d'écrire pour témoigner de celui qui l'a assisté, qui l'a guidé toute sa vie, qui l'a fortifié tout au long de sa vie. Il a écrit pour encourager ceux qui étaient dans le besoin. Il a écrit pour soutenir tous ceux qui avaient besoin d'être encore soutenus. Il a écrit pour partager son expérience avec son Dieu. Paul, l'homme qui écrit. Dans sa solitude, Paul est resté debout parce que dans son désespoir, il a témoigné. Il a fortifié et il a soutenu tous ses semblables par ses écrits. Et c'est dans ses écrits que l'on peut lire ce verset qui vous a été lu tout à l'heure par Serge et qui me touche tout particulièrement. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. David, Naaman, Paul, ce sont trois hommes qui, à un moment de leur vie, se sont retrouvés face au désespoir. Et aujourd'hui, dans notre société, plus que jamais, nous vivons des moments qui sont difficiles, des temps qui sont difficiles. Pas besoin d'en dire plus, vu le contexte dans lequel nous sommes. Et dans ces moments difficiles, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent paraître désespérées, ou qui nous semblent désespérées avec notre vision des choses. Comme David, peut-être qu'au travers de l'exil, l'immigration, la perte, le deuil, nous nous retrouvons désespérés. Ou comme Naaman, peut-être face à la maladie, l'isolement, le rejet ou l'incompréhension, nous nous sentons désespérés. Ou comme Paul, face à la solitude, l'enfermement, nous nous sentons désespérés. Tous, je pense, nous avons connu à un moment donné de notre vie ces moments de désespoir, ces moments où on est saturé, où on a envie de baisser les bras, on est fatigué de cette lutte, on n'a plus envie d'avancer. Alors dans ces moments-là, dans ces moments de désespoir, j'aimerais que nous nous rappelions de ces trois hommes. J'aimerais que nous nous rappelions de David, qui face à une situation désespérée, a choisi d'espérer dans son Seigneur. J'aimerais que nous nous rappelions de Naaman, qui face à l'affliction, a choisi d'écouter activement ce que Dieu avait placé devant lui, en acceptant de lâcher prise et de faire confiance. J'aimerais que nous nous rappelions de Paul, Paul, qui face à la désolation, a choisi de témoigner de son alliance avec Dieu et d'encourager les autres. Est-ce que ça a été facile ? Certainement pas. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute ? Probablement. Est-ce que ça en valait la peine ? Sans aucun doute. Car dans leur combat, chacun a été victorieux, comme nous aussi, nous pouvons l'être. Alors, jusqu'au bout, ne lâchons rien, ne lâchons jamais. Redressons la tête et n'abandonnons jamais notre foi. Jusqu'au bout, espérons. Espérons d'une espérance certaine et fondée sur les promesses de notre Dieu. Jusqu'au bout, ouvrons nos oreilles aux paroles que le Seigneur nous adresse. Jusqu'au bout, sachons aussi encourager ceux qui en ont le plus besoin. Alors, les bras levés et portés par Christ, comme ceux de Moïse l'ont été par le peuple, nous pourrons savourer la victoire et affirmer, comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. » Amen.